Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Emmanuel Mordincamp.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Premier jour de notre série consacrée à l'économie de la rareté, un concept clé de la théorie économique qui désigne cette tension entre des besoins supposément infinis et des ressources limitées. Demain, nous examinerons la notion même de rareté qu'il nous faudra penser avec le principe de rivalité. Mercredi, nous imaginerons la disparition d'une matière première stratégique, le pétrole. Jeudi, enfin, nous verrons que l'économie circulaire peut être une réponse à la raréfaction des ressources. Mais d'abord, pénétrons dans l'univers du luxe qui a fait de la rareté l'un de ses arguments de vente. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons explorer l'industrie du luxe en compagnie de Dominique Jacomet, professeur et directeur de l'Institut français de la mode, auteur avec Franck Delpal d'une économie du luxe paru chez Duno. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera comme chaque jour des nouvelles de l'écho.
Regrettera qui veut le bon vieux temps, et l'âge d'or et le règne d'Astrée, et les beaux jours de Saturne et de Ré, et le jardin de nos premiers parents. Moi, je rends grâce à la nature sage qui, pour mon bien, m'a fait naître en cet âge, tant décrié par nos tristes frondeurs, ce temps profane étouffé pour mes mœurs. J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce. La propreté, le goût, les ornements, tout honnête homme a de tels sentiments. Il est bien doux pour mon cœur très immonde de voir ici l'abondance à la ronde, mère des arts et des heureux travaux, nous apporter de sa source féconde et des besoins et des plaisirs nouveaux. L'or de la terre et les trésors de l'onde, leurs habitants et les peuples de l'air, tout sert au luxe, au plaisir de ce monde. Ô le bon temps que ce siècle de fer, le superflu, chose très nécessaire, a réuni l'un et l'autre hémisphère.
Bonjour Dominique Jacomet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre Le Mondain, un poème de Voltaire publié en 1736 et lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Quel regard portez-vous, Dominique Jacomet, sur cet éloge du luxe que nous offre ici le philosophe ?
Eh bien, c'est intéressant cette citation de Voltaire parce que elle met, si vous voulez, le doigt sur le paradoxe du luxe. C'est en effet cette contradiction entre la valeur et l'utilité. Mmh. Alors, selon que on regarde du côté de l'utilité, on sera plutôt négatif. Et si on regarde du côté de la valeur, et c'est ce que fait Voltaire, on sera plutôt positif. Il disait d'ailleurs que le luxe est la suite naturelle des progrès de l'espèce humaine.
Et en l'occurrence, au XVIIIe siècle, le luxe devient vraiment une question largement débattue, l'objet de nombreuses discussions parmi les philosophes.
Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir que ce débat idéologique précède au fond le premier âge d'or du luxe, qui est le XIXe, puisque le débat a lieu au XVIIIe siècle. Et vous avez en effet Voltaire, vous avez aussi Adam Smith qui, le premier justement, met le doigt sur ce décalage entre valeur d'usage et valeur d'échange. Et vous savez, c'est la fameuse parabole de l'eau et du diamant. L'eau est utile, mais le diamant a une valeur d'échange bien supérieure à celle de l'eau. Donc du coup, un prix évidemment qui peut être beaucoup plus élevé. Et puis vous avez en face Rousseau, et je ne résiste pas de citer cette fameuse citation de Rousseau, « Le luxe corrompt le riche par la possession, le pauvre par la convoitise ».
Et ce n'est pas un hasard, Dominique Jacomet, si cette question est aussi importante au XVIIIe siècle, parce que c'est véritablement un tournant qui s'opère à ce moment-là. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'était plutôt l'Asie qui était le principal exportateur mondial de produits de luxe.
Tout à fait, d'une manière générale, l'Asie et l'Inde connaissent leur apogée au moment où nous nous sommes même pas dans la proto-industrie. Et puis il y a ce basculement, nous rentrons dans la proto-industrie, puis dans ce qu'on a appelé la révolution industrielle de manière un peu abusive, parce que les bouleversements étaient en réalité beaucoup plus lents, et nous nous substituons à la Chine, et par exemple la Grande-Bretagne s'est substituée à l'Inde. Vous savez que jusque dans les années 1840, l'Inde et même l'Égypte fabriquaient plus de tissus et de filets que n'en fabriquaient les pays occidentaux. Et puis il y a eu ce renversement puisque l'Inde et l'Égypte sont devenus des producteurs de matières premières. C'est moins vrai aujourd'hui. Et c'est donc la Grande-Bretagne et la France en particulier dans le luxe qui s'y sont substitués.
Justement, la France, Dominique Jacomet, c'est intéressant de rappeler que l'apparition de manufactures de luxe procède d'une volonté du pouvoir royal.
Oui, je dirais même que quand on regarde, il y a peut-être deux éléments qui expliquent le succès du luxe français. Il y a la commande publique liée aux sociétés de cour, qui a été constante sous Louis XIV, sous Louis XV, mais aussi sous Napoléon Ier, sous Napoléon III. Et c'est comme ça que la haute couture a pu naître. Et puis, donc, il y a cet élément-là. Et un autre élément qui est le lien avec les beaux-arts. Par exemple, si vous prenez la soierie lyonnaise dépasse la soierie italienne, qui était très connue depuis la Renaissance et qui était en avance, parce qu'il y a cette combinaison, précisément, de la commande publique et du fait que les soyeux lyonnais vont demander à des artistes des beaux-arts de dessiner leur tissu.
Et en Italie, c'est un peu la même chose qui s'est passée. Le fait qu'aujourd'hui, le prêt-à-porter de luxe constitue une part importante du PIB, c'est un héritage des liens tissés entre l'art et l'industrie pendant la Renaissance.
Alors le cas italien est singulier. On a pu dire d'ailleurs que finalement, la Renaissance italienne avait été utilisée plus comme une construction par l'industrie du luxe italienne. En fait, les racines sont très différentes. En France, vous avez eu la haute couture. En 1858, c'est un Anglais qui s'appelle Charles Frederick Worth. D'ailleurs, il a voulu franciser son nom. Il voulait qu'on l'appelle Worth pour montrer qu'il avait bien franchi la Manche. Et il crée la haute couture. Alors que l'Italie va créer directement le prêt-à-porter. Et la France va elle-même développer son prêt-à-porter plus tard, surtout à partir des années 60. Mais la haute couture française, c'était une véritable industrie. Vous aviez à peu près 300 000 ouvriers et 150 000 artisans avant la crise de 29. Donc c'était une véritable industrie et en même temps, une activité évidemment, pas tout à fait un art, mais il fallait des artistes pour le faire.
Et justement, c'est Charles Frederick Worth, le fameux qui ouvre à Paris en 1858 sa propre maison de haute couture, qui va inventer, je crois, les sosies, qui sont les ancêtres des mannequins.
Tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, dès le 19e, vous avez un certain nombre d'éléments essentiels de l'industrie du luxe qui sont mis en œuvre. Vous avez les défilés, vous avez les mannequins, vous avez le modélisme en quelque sorte. Vous avez les licences et donc la diversification des produits. Donc aujourd'hui, quand on parle de luxe, c'est non seulement les vêtements, mais c'est aussi les chaussures, la maroquinerie, la beauté, les parfums, la joaillerie, etc. Tout ceci, si vous voulez, se met en place. Et aussi la révolution commerciale, avec les grands magasins et puis les premières boutique.
Et peut-être que cette industrie du luxe va connaître une nouvelle expansion au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Dominique Jacomet, c'est peut-être la deuxième grande vague de croissance de cette industrie.
Voilà, en effet, on est maintenant dans une phase de croissance accélérée. Et c'est intéressant de remarquer que l'industrie du luxe est quand même sensible à la conjoncture. Vous avez eu un ralentissement, par exemple, en 2001, ce qu'on a appelé la crise Internet. Vous en avez eu un autre au moment de la crise économique liée aux subprimes. Mais le ralentissement est très court et plutôt moins intense que la baisse du PIB. Et en revanche, quand vous avez une reprise qui s'est produite, on vit dans cette période-là, à ce moment-là, vous avez une croissance des dépenses du luxe, de la consommation, qui est supérieure à la croissance du PIB. Et puis l'autre élément, c'est la mondialisation. C'est évident que l'industrie du luxe, et en particulier l'industrie française, bénéficie de cette mondialisation. À la fois les pays, bien évidemment, et on pense à la Chine, on en reparlera sûrement, mais aussi les clients qui se promènent partout dans le monde.
Alors on va y revenir, en effet, mais peut-être qu'on peut préciser avant cela, Dominique Jacomet, que c'est seulement à partir des années 80 que l'on commence à voir le luxe comme un potentiel important pour l'emploi ou la création de richesses en France. C'est moins le cas pendant les 30 Glorieuses.
Oui, du fait d'ailleurs du débat qu'on a rappelé au cours du 18e et aussi du 19e, la relation entre, je dirais, l'opinion et le luxe est toujours un peu contradictoire. Il y a toujours cette question, au fond, de légitimité qui ressort. Et on a mis du temps, me semble-t-il, à considérer que c'était une véritable industrie. Il y a évidemment les aspects de création, tous ces aspects de narration qui sont très importants.
D'autres industries étaient considérées comme plus légitimes dans cette période de reconstruction après la guerre.
Oui, évidemment, parce qu'elles devaient satisfaire des besoins pressants et immédiats. Mais le luxe, c'est une véritable industrie en termes d'emplois industriels, d'emplois dans la distribution.
576 000 emplois en France
aujourd'hui. Voilà, si on prend en effet au sens large, on est pratiquement même à 600 000 que l'on prenne des emplois industriels, mais aussi évidemment beaucoup les emplois de la distribution et du service. Donc c'est un écosystème, si vous voulez, qui est complet et une chaîne de valeur. Les entreprises ont tendu et tentent à se verticaliser sur cette chaîne de valeur. Donc au début, si vous voulez, elles étaient dans le modèle de ce qu'on appelle le wholesale. Et puis elles ont intégré la distribution directement avec des magasins en propre, qu'on voit partout dans les grandes villes. Et elles ont également fait un peu moins connu, intégrer et réinternaliser la production. Et ça, particulièrement dans la maroquinerie, la chaussure, les industries du cuir, mais aussi la joaillerie, l'horlogerie. Voilà, le prêt-à-porter reste un modèle un peu différent du fait de sa volatilité et donc la partie sous-traitance reste importante.
Donc c'est l'un des seuls secteurs économiques qui est dans cette évolution d'internaliser une partie de sa production et de ne pas recourir justement aux sous-traitants. Depuis quand à peu près, Dominique Jacomet, on observe cette tendance ?
Alors cette tendance, on l'observe depuis les années 90, mais elle s'est accélérée dans les années 2000. Et c'est aussi lié, si vous voulez, au consommateur, parce que le consommateur est évidemment très sensible aux marques, à la narration, à la création, mais il est de plus en plus sensible à la matérialité des produits, et notamment à la question de la qualité, des savoir-faire techniques. Et au fond, on voit que les entreprises utilisent au fond deux sortes de légitimité. La légitimité charismatique, qui avait été soulignée par Max Weber, avec les directeurs artistiques, les directeurs de création, les grands créateurs, et aussi cette légitimité artisanale, industriel et de savoir-faire. Au fond, ça rejoint les deux grandes racines qui sont d'une part l'artisanat qui s'est développé au 19e, qu'on songe à Louis Vuitton, à Hermès, etc. Et aussi la haute couture dont on a parlé à partir de la seconde moitié du 19e.
Et cela marche extrêmement bien. Le luxe pèse davantage dans le PIB français que l'auto et l'aéronautique réunis, et notamment grâce aux deux numéro 1 et 2 du luxe mondial qui sont français, LVMH et Kering.
Tout à fait. Si vous prenez LVMH, entre 2008 et 2018, le chiffre d'affaires a doublé. Et si vous prenez Hermès, il a été multiplié par 3. Donc il y a des croissances tout à fait importantes. C'est un peu, si vous voulez, les GAFA à la française. Mmh. Voilà. Et tout ceci, évidemment, sur un marché qui a lui-même beaucoup augmenté. Si vous prenez juste ce qu'on appelle le luxe rattaché, si vous voulez, à la personne, vous aviez un chiffre d'affaires mondial d'environ 73 milliards de dollars en 1994, et nous sommes aujourd'hui aux environs de 260. Il faut être assez prudent d'ailleurs sur les chiffres. Ce qui compte, c'est les ordres de grandeur.
Alors on va voir les ressorts de cette croissance, Dominique Jacomet. Mais d'abord, comment définir le luxe ? Écoutons deux grands noms de la haute couture.
Le luxe, les gens jouent beaucoup avec ce mot-là, en disant chacun a son luxe. Pour moi, le luxe, c'est de rien faire, de rester au lit ou je ne sais quoi. Mais non. Le luxe, ça correspond à des critères. Alors évidemment, des critères de qualité. C'est pas un logo, c'est pas un prix, mais c'est de la rareté.
Vous savez, le luxe, il y en a de toutes sortes. Le luxe, c'est aussi d'avoir du temps pour soi, sans être obligé de vivre sous une pression continuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pauvres gens qui n'ont rien à faire et d'autres qui sont trop stressés. Donc ça, c'est le luxe aussi. Le luxe, c'est aussi une question de qualité. Le luxe, c'est une question de tournure d'esprit. Vous savez, on peut faire un essai là-dessus. Ça n'est pas seulement les choses chères. Il faut encore qu'elles soient bien faites et qu'elles justifient leur prix et leur qualité doit être impeccable.
Vous avez peut-être reconnu Inès de la Fressange et ensuite Karl Lagerfeld. Que vous inspirent ces propos, Dominique Jacomouin ?
Je crois qu'il souligne, si vous voulez, que le luxe, c'est plus un univers qu'un secteur économique. C'est très difficile. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait être prudent avec les chiffres. Parce que essayer de mesurer, si vous voulez, ces domaines, c'est assez compliqué. Et au fond, c'est un univers. On s'est dit, si vous voulez, dans les deux interviews, vous avez une grande partie matérielle. Le luxe, on est au-delà des besoins. Ce qui compte, c'est le désir. Roland Barthes disait, au fond, on crée un simulacre de l'objet réel. J'aime beaucoup cette formule. Et finalement, vous pouvez dire qu'il y a un immatériel intériorisé. Et c'est justement les aspirations des individus, le confort, le goût du beau, le sacré. Voilà, on touche à l'intime. Et puis, vous avez l'immatériel extériorisé. Et là, c'est le faste, l'ostentation. On se retrouve au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le besoin de positionnement social, l'identification. Et vous voyez que selon les périodes et selon les entreprises, le luxe tend à répondre à ces deux éléments. Si vous prenez par exemple Dior, vous avez une très forte identification à Versailles, donc à l'histoire, donc à cet immatériel extériorisé. Vous allez aujourd'hui dans des boutiques de luxe, ce sont des lieux d'expérience sensorielle un peu inédite. Et donc, vous trouvez cette tendance à l'intériorisation dont parlait Karl Lagerfeld à un instant.
Et puis, c'est aussi un univers, peut-être, où il faut être adoubé, Dominique Jacomet, un univers particulièrement concentré.
C'est vrai. C'est, si vous voulez, un univers d'insider. Alors, il y a des challengers, il y a des outsiders, mais il faut dire qu'ils n'ont pas la vie facile. Si on fait un tout petit peu d'économie, on dira, voilà, c'est plutôt une industrie oligopolistique, et pour être plus précis, même une industrie oligopolistique à franges concurrentielles. Donc on voit bien que pour les insiders, les choses sont plutôt faciles, parce qu'ils bénéficient du caractère oligopolistique. Et puis pour les concurrents, à la fois entre eux, les outsiders, c'est difficile, et c'est difficile d'aller grignoter également sur, si vous voulez, les géants du secteur.
Et alors pourquoi achète-t-on des produits de luxe ? Écoutons la réponse de Pierre Bourdieu dans son essai paru en 1979, La distinction.
La lutte qui oppose aux fractions dominantes les fractions dominées tend dans sa retraduction idéologique à s'organiser selon des oppositions à peu près superposables à celles que la vision dominante établit entre la classe dominante et les classes dominées, c'est-à-dire d'un côté la liberté, le désintéressement, la pureté des goûts sublimés, le salut dans l'au-delà, etc., etc. Et de l'autre, la nécessité, l'intérêt, la bassesse des satisfactions matérielles, le salut en ce monde. Cette surdétermination essentielle est ce qui fait que les bourgeois peuvent si aisément marquer, par rapport aux classes dominées, qu'ils se situent du côté du désintéressement, de la liberté, de la pureté, de l'âme. Ce n'est pas par hasard, on le voit, que l'art et l'art de vivre dominant s'accordent sur les mêmes distinctions fondamentales qui ont toutes pour principe l'opposition entre la nécessité brute et brutale, qui s'impose au commun, et le luxe comme attestation de la distance à la nécessité.
Un extrait donc de La distinction de Pierre Bourdieu, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. La consommation de biens de luxe, Dominique Jacomet, témoigne d'une volonté de se distinguer.
Oui, mais c'est aussi une consommation paradoxale, parce que d'un côté, vous avez, les marques et la communication valorisent le caractère exceptionnel, rare, du luxe, mais en même temps, vous observez que c'est des productions de grande série. Je voyais par exemple que Veuve Clicquot, c'est à peu près 22 millions de bouteilles par an. Si vous prenez la taille des séries, si vous voulez, dans le luxe, c'est devenu une véritable industrie avec des grandes séries.
Alors comment on vend l'exceptionnalité, voilà, si finalement elle n'est pas tout à fait réelle ?
Eh bien, on la vend justement par cette narration dont je parlais, par justement faire sentir au consommateur qu'il peut entrer dans un univers magique et non contraint. Mais il faut bien voir que à côté de cela, vous avez cette tension, ces paradoxes entre la permanence et la mode. On a tous en tête la permanence, le fameux tailleur bar de Christian Dior, la veste en tweed de Chanel, le sac Kelly d'Hermès, et puis vous avez la mode qui est également présente dans le luxe, donc vous avez ce mélange d'histoire et de modernité. Et puis vous avez le luxe abordable, et le luxe abordable, il est à la fois le fait des marques de luxe, mais en même temps, justement, d'outsiders qui deviennent premium, comme on dit. On a tous en tête un certain nombre de marques qui, justement, utilisent les codes de luxe sans vous oublier ce que j'appellerais les effets un peu de halo. Si vous pensez à Zara, par exemple, c'est évident que Zara, auprès de ses consommateurs, utilise, si vous voulez, les codes du luxe.
Mais justement, on peut se demander si ce qui ressemble à une démocratisation du luxe n'est pas en train de desservir l'industrie du luxe. C'est ce qu'on peut entendre. On entend certaines voix s'élever contre cette démocratisation, justement.
Alors, les choses, en fait, sont plus complexes parce que finalement, vous avez une triple croissance. Vous avez à la fois une croissance par le haut, et encore une différenciation encore plus forte par le haut, parce qu'on parle aujourd'hui d'hyperluxe. Et vous avez une demande, notamment internationale, de biens de plus en plus rares, de plus en plus chers. On a tous eu cette expérience dans les magasins avec un certain nombre de clients qui s'intéressent à ce type de produit. Vous avez le segment central du luxe qui continue à croître. Et puis vous avez en effet ce segment du luxe abordable, qui est un peu un point d'entrée et qui lui aussi augmente. Donc au fond, le luxe, je dirais, est triplement gagnant.
Et alors, ce qui est intéressant, Dominique Jacomet, c'est que ce que Thorstein Veblen, le sociologue, a montré, c'est que plus les prix montent, plus la demande augmente dans le luxe, ce qui est finalement l'inverse de ce que prévoit la théorie économique classique.
Voilà, on est en effet dans un système où, et c'est pour ça que le segment central du luxe est essentiel, parce que c'est ça qui donne justement la force, si vous voulez, économique. On est en effet dans un système où les entreprises sont ce qu'on appelle price makers, alors que dans beaucoup de domaines économiques, dans les biens de consommation courante, elles sont price takers. Et ça, c'est justement parce qu'il y a toute cette construction, si vous voulez, narrative et immatérielle qui permet à ces entreprises de disposer d'une prime de prix.
On peut dire que la sociologie a apporté de nouveaux éléments à la théorie économique. Veblen qui a aussi montré que la consommation se réfère à des signes plutôt qu'à des usages fonctionnels.
Oui, je crois que le luxe, vous avez raison, de deux manières bouleverse les choses. D'abord, il remet en cause un peu certains éléments de la théorie néoclassique, puisque on voit bien que notamment le prix n'est pas l'élément majeur. Au fond, le consommateur de luxe, il doit être intimement persuadé que le produit de luxe qu'il va acheter est intrinsèquement supérieur à un produit concurrent. Et donc, à la limite, la question du prix devient secondaire. Donc vous avez ça, et puis vous avez, mais ça concerne évidemment beaucoup d'éléments, beaucoup de secteurs, c'est le poids dans les économies modernes des industries créatives, des industries culturelles. C'est-à-dire le luxe est à la croisée, je dirais, de l'économie, de la culture, de la création. C'est un écosystème assez complexe qui mêle tous ces éléments.
Et c'est pour cela que ce que l'on constate, Dominique Jacomet, c'est que les consommateurs de biens de luxe, ce sont non seulement des personnes qui ont une vraie aisance financière, évidemment, mais aussi qui ont un haut capital culturel. C'est ce qu'on remarque
tout
souvent.
À fait. Tout à fait. Et qui sont, parce qu'on dit souvent, voilà, il y a une massification, mais il ne faut pas oublier que c'est une industrie qui est mondialisée. Et donc les consommateurs circulent dans tous les pays, etc. Et donc vous avez en effet une masse de consommateurs beaucoup plus importante au moment où nous parlons qu'il y a 10 ans ou 20 ans.
Et c'est un secteur, Dominique Jacomet, qui a tout de même très bien résisté à la crise.
Le marché global du luxe a progressé de 4% en 2012, une belle progression. Il a atteint 302 milliards de dollars. L'Europe reste la région numéro 1. avec 32% des ventes globales des produits de luxe. Alors, qui sont les consommateurs? Les consommateurs sont bien sûr les personnes aisées, fortunées, mais aussi les touristes, notamment les touristes chinois. De 2007 à 2012, le nombre de départs de Chine vers la France a augmenté de 69%. Beaucoup de ces touristes chinois viennent en France exclusivement pour faire leurs achats dans les grands magasins de luxe parisiens. En moyenne, les touristes chinois dépensent un tiers de leur budget vacances dans les magasins. Juste pour comparer, les Britanniques, eux, ne dépensent que 12% de leur budget vacances dans les magasins.
Voilà, on entendait l'économiste Johanna Kolarski-Bezerra qui était interviewée le 8 octobre 2013. L'industrie du luxe a traversé la crise plutôt sans dommage, Dominique Jacomet.
Oui, elle a fortement ralenti en 2009 et très rapidement, elle est repartie en 2010. Alors, il peut y avoir des explications, si vous voulez, d'ordre qualitatif, qui est de dire qu'au fond, c'est une consommation qui échappe justement à la crise parce que elle est une consommation de désir et de plaisir. Et puis, vous avez le fait que la crise a été surtout la crise de l'Occident, des économies occidentales, mais le luxe est tiré par l'Asie. Si vous regardez aujourd'hui la consommation, alors prenons simplement ce qu'on appelle les biens personnels, c'est-à-dire vêtements, cuir, horlogerie, bijouterie, joaillerie, et puis horlogerie, joaillerie plutôt, et puis les parfums. Ça fait à peu près 260 milliards de dollars. Et vous avez trois tiers. Vous avez l'Europe, un tiers, les États-Unis et l'Asie.
L'autre conclusion qu'on peut tirer, c'est que ceux qui ont souffert de la crise ne sont pas forcément les populations les plus aisées.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de voir que l'Europe et les États-Unis, ça fait toujours deux tiers. Mais en effet, l'Asie, c'est un tiers. Et à l'intérieur de l'Asie, évidemment, la très grande croissance, c'est la Chine. La Chine, aujourd'hui, on faisait la distinction entre la Chine, je dirais, en tant que pays. La Chine, en tant que pays, c'est 10%. De ce total, de ces 260 milliards. Mais si vous prenez les clients chinois en Chine et dans le monde, c'est 33%.
Oui, c'est
colossal. C'est colossal.
Mais est-ce que tout de même...
La dynamique, si vous voulez, est asiatique.
Est-ce que cette crise de 2008 a tout de même eu une série d'impacts sur les habitudes de consommation des clients du luxe? Vous parliez d'une attention plus importante à la qualité des produits, notamment?
Oui, je crois que au moment où l'e-commerce, la digitalisation se développe, et c'est indispensable, évidemment, vous avez un retour à la matérialité. Et ça a correspondu d'ailleurs à cette réinternalisation des fabrications. Donc, cette légitimité du savoir-faire est devenue très importante. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de vendre un produit de luxe uniquement sur les arguments immatériels. Ils sont évidemment essentiels. Mais il doit y avoir une correspondance, un lien, si vous voulez, entre l'immatériel et la réalité.
Eh bien, on va continuer notre discussion sur l'industrie du luxe, ou plutôt la reprendre dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'était Life of Luxury du groupe américain Vampire. Dominique Jacomet est toujours avec nous pour parler de l'industrie du luxe. Alors pourquoi le marché du luxe est-il nécessairement international, Dominique Jacomet ? Est-ce que c'est parce que le marché, il s'agit d'un marché particulièrement élitiste, donc il faut absolument trouver des débouchés internationaux ?
Alors il est élitiste, mais en même temps il s'adresse de plus en plus au grand nombre. Mais il s'adresse, si vous voulez, à une catégorie de population qui sont au fond les urbains et qui ont des modes de vie très proches les uns des autres. Donc on vit à New York, à Shanghai, à São Paulo. Et il y a un lien d'ailleurs entre l'urbanisation du monde, puisque la grande majorité de la population vit dans les villes, et le luxe, puisque le luxe, il est présent à travers tous ces magasins que nous trouvons dans ces grandes capitales.
Mais si on regarde par exemple l'Union européenne, c'est 60% du chiffre d'affaires des entreprises européennes du luxe qui provient d'exportations au-delà des frontières de l'Union.
Parce que là, vous avez un autre élément qui joue, c'est ce décalage de croissance. C'est qu'il y a une croissance forte en Asie. Et si vous voulez, cette croissance accumulée depuis le début des années 2000, produit des effets revenus et également des effets sociologiques considérables, d'où l'explosion de la Chine. Mais on voit ça aux États-Unis aujourd'hui. Aux États-Unis, vous avez une croissance qui est assez forte en ce moment et vous avez également une situation positive pour l'industrie du luxe.
Et puis peut-être que l'internationalisation est nécessaire, Dominique Jacomet, parce que ce qui fait également la valeur d'un bien de luxe, c'est son pays d'origine qui est associé à une identité bien particulière.
Voilà, et au fond, dans les économies modernes, on l'a dit, vous avez une sorte de division internationale qui se fait, et on reconnaît à la France eh bien, le luxe, l'art de vivre. Voilà, le luxe automobile, c'est l'Allemagne. Mais le luxe pour les parfums, la mode, c'est la France. Et ça, c'est un avantage que vous pouvez décliner mondialement.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le cognac, par exemple, est assez peu consommé en France. On consomme finalement plus de whisky écossais et on exporte notre cognac.
Absolument, tout à fait. Mais ça c'est le, si vous voulez, le système aujourd'hui, la mondialisation, c'est l'ouverture des échanges. Mais vous observez quand même une forte asymétrie. C'est-à-dire que si vous regardez l'Asie, encore une fois, l'Asie produit un certain nombre de biens, mais dans les domaines dont nous parlons, tous les flux vont, si vous voulez, de France ou d'Europe vers l'Asie.
Et alors si on regarde le marché du luxe en France, Dominique Jacomet, quelles sont les particularités de ce marché ? Quelles sont les spécialités de l'industrie du luxe française ?
Alors, nous sommes, vous avez parlé des vins et spiritueux, donc on a une position mondiale extrêmement affirmée dans ce domaine. Nous l'avons également dans le cuir, très forte position qui s'est renforcée et qui s'est renforcée pour une raison simple, c'est que le cuir est plus adapté à la mondialisation d'une certaine manière. Parce que c'est plus facile pour une consommatrice japonaise ou chinoise d'offrir un cadeau avec un article de maroquinerie que d'offrir un cadeau avec du prêt-à-porter, par exemple.
Pour quelle raison ?
Bah parce que vous avez la question des tailles, du bien-aller, etc. Et puis, vous avez aussi, dans le cas du Japon, celle même de l'espace.
La question qui se pose aussi à Dominique Jacomet, c'est la question de la fabrication, de la production. On disait tout à l'heure qu'il y avait encore un certain nombre de produits de luxe qui étaient fabriqués en France. Mais alors, qu'est-ce qui réellement aujourd'hui est fabriqué en France ? Il y a quand même un certain nombre de sous-traitants, notamment dans le marché de la haute couture. Et peut-être que c'est souvent la dernière touche qui est placée en France. Quelle est la réalité aujourd'hui de la production française ?
Si vous voulez, le luxe, c'est une longue chaîne de valeur. Parce qu'on part des matières, si on prend le textile, il y a les fils, il y a les tissus, il y a la confection, il y a la distribution. Si on prend, si vous voulez, par exemple, l'habillement, qui est quand même un élément important, parce que ça doit représenter à peu près 60 milliards sur les 260 milliards de dépenses mondiales. Donc, pour le luxe, ce qu'on appelle les supports, les composants textiles, les fils et les tissus, pour faire simple, viennent d'Italie. Mmh. Le luxe français, 80% vient d'Italie. Donc, ça vient d'Europe. Et donc l'Italie, c'est évidemment un acteur très important.
Mais la plupart du temps, ils ne sont pas assemblés en Europe.
Alors, en ce qui concerne le luxe, l'assemblage se fait essentiellement et quasi exclusivement en France et en Italie. Voilà, ça c'est contrairement, si vous voulez, à ce qu'on appelle les marchés de masse.
Il n'y a pas certaines étapes de production qui se font dans d'autres pays ?
Très peu. Franchement, très peu. Et en tout cas, rien, si vous voulez, dans ce qu'on appelle les pays à bas salaire. Si on parle vraiment du luxe, si on parle du mass market, c'est évidemment une autre histoire. Et alors, la haute couture, ça, c'est 100% français et c'est, je dirais, 100% parisien, parce que c'est les ateliers, si vous voulez. Vous avez le modélisme et vous avez les ateliers de couture. Vous avez à peu près 20 000 emplois dans l'agglomération parisienne qui sont liés à l'industrie du luxe par la haute couture. Donc, la haute couture, c'est un élément très important.
Alors, justement, écoutons maintenant la directrice de la division couture de Dior.
Vous vous habillez en couture ?
Oui.
Ça change quoi ?
Tout.
Ça booste l'ego, il y a un truc, hein, ou c'est le
non,
corps
mais
qui...
c'est une chose qui est tellement faite à vos mesures. Je veux dire, c'est que vous n'êtes gêné en rien, vous vous sentez... Il y a une silhouette, il y a quelque chose de très particulier.
On ne s'habille pas que pour le mariage.
Ah non.
Pour la couture.
Non.
Ouais, non.
Non, non, les vrais clients de haute couture s'habillent pour la journée.
Il y a des gens qui prennent l'avion, des femmes qui prennent l'avion en couture ?
Bien sûr, moi la première. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vêtement qui est bien fait, c'est tout. Donc qui coûte plus cher parce qu'il y a plus de travail, plus de temps passé. Mais c'est un vêtement. Je sais pas, on va pas le mettre sous cloche, c'est un vêtement.
Voilà un extrait d'un documentaire de Loïc Prigent intitulé « Qu'est-ce que la haute couture ?» et diffusé en 2016. C'est un vêtement, entend-on, on ne va pas le mettre sous cloche. On retrouve ici ce paradoxe entre l'exceptionnel et le quotidien, Dominique Jacomet.
Ah, tout à fait. Je le disais, la haute couture, c'était une industrie. Tout le monde s'habillait, et ça correspondait aussi, bien évidemment, à un art de vivre, les croisières, etc. Aujourd'hui, vous avez un renouveau de la haute couture. C'est une locomotive formidable. Par exemple pour les accessoires qui se sont énormément développés. Ça a été dit, le côté, si vous voulez, liberté, c'est un formidable laboratoire, c'est le laboratoire R&D du luxe. Il n'y a pas de contraintes, si vous voulez, quand vous faites des collections de prêt-à-porter, il y a évidemment un certain nombre de contraintes. Ces contraintes sont éloignées, elles sont repoussées quand il s'agit de la haute couture. C'est un vecteur d'image tout à fait exceptionnel. Et ce qui n'est pas assez souligné, c'est que la haute couture française, elle est cosmopolite, parce que son fondateur n'était pas français. Et vous avez aujourd'hui, les Fashion Week, 50% des défilés, ce sont des marques étrangères. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs, ni à New York, ni à Milan, ni à Londres.
Et alors justement, on a parlé du marché du luxe en France, un petit peu en Italie. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui l'industrie américaine du luxe ? Aujourd'hui, il y a des champions nationaux aux États-Unis qui peuvent concurrencer les marques européennes ?
Eh bien, c'est justement le luxe abordable. Les Coach, le Michael Kors, une partie de Ralph Lauren, parce que Ralph Lauren, là aussi, c'est extrêmement vaste. Vous avez un peu de luxe, beaucoup de sportswear, au fond, premium, etc. Donc, l'industrie américaine, elle utilise le fameux effet de halo. Et donc, elle est intéressée par les volumes. Et en plus, elle n'a pas l'outil de fabrication ni le savoir-faire accumulé dans les siècles dont on parlait au début de l'émission. Donc elle est, si vous voulez, sur ce créneau qui est évidemment, ils sont agressifs, c'est clair, mais en même temps, on voit que c'est un peu limité parce que quand on veut du luxe, on ne veut pas du premium.
Mais alors justement, la stratégie de ces marques, et peut-être de toutes les marques de luxe en général, vous parliez d'effet de halo, c'est peut-être d'être dans le même environnement au moment de la distribution, c'est-à-dire avoir des boutiques assez proches les unes des autres pour bénéficier de l'influence et du prestige de telle ou telle marque.
Oui, c'est vrai. Mais si vous regardez les marques américaines, leur croissance a été assez fulgurante au départ, mais aujourd'hui les choses sont moins nettes.
Mais ce qui est intéressant, c'est que cet investissement pour avoir une boutique par exemple sur l'avenue Montaigne ou sur la 5e avenue à New York, cet investissement est considérable. Est-ce que c'est cela qui constitue une barrière à l'entrée très importante et qui fait qu'aujourd'hui ce secteur du luxe est aussi concentré comme on le disait tout à l'heure ?
Vous avez raison. les barrières à l'entrée, c'est les coûts qu'on doit supporter pour rentrer dans une industrie. Alors, il n'y a pas de barrière réellement naturelle, parce que vous pouvez trouver les matières premières, vous pouvez trouver la main-d'œuvre, mais il y a ce qu'on appelle des barrières stratégiques. Construire une marque, c'est très compliqué et c'est très long.
Voyez, l'image de marque se construit très lentement.
Au-delà même de l'image de marque, le concept même de ces marques est... Et on revient là encore aux marques françaises qui ont toute une histoire, qu'elles valorisent, etc. Donc ça, c'est compliqué. Vous parliez du réseau de distribution. Le prix aujourd'hui d'accès, si vous voulez, pour ouvrir des magasins en propre dans des grandes capitales. Le fait que le consommateur est très sensible à ce qu'on appelle le merchandising visuel, à l'expérience, donc l'architecture... Les liens avec l'art, on retrouve, si vous voulez, ces dimensions créatives et culturelles. Donc tout ceci constitue des barrières à l'entrée assez élevées.
Et puis il y a aussi la question du financement, la difficulté à trouver des financements. En l'occurrence, ce qu'on constate, Dominique Jacomet, c'est qu'il y a un certain attrait du secteur du luxe pour les financiers, alors même qu'on peut considérer que c'est un secteur, un marché qui est peut-être moins rentable que d'autres secteurs, comme le secteur des hautes technologies ou des biens de consommation courante. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet attrait du secteur du luxe pour les financiers?
Les financiers, les marchés financiers, ils vont là où est le succès, si vous voulez. Quand ils voient la croissance aujourd'hui 6%, quand ils voient les perspectives d'augmentation encore de ce marché, ils se disent, voilà, il y a une demande mondiale. C'est intéressant pour eux. Mais il ne faut pas oublier que les grandes entreprises du luxe, c'est des entreprises familiales. Que vous preniez LVMH, Kering, Chanel, Hermès, c'est des entreprises familiales. Donc avec le souci du long terme, justement, de la durée qui est consubstantielle du luxe.
Et puis il y a peut-être une volonté aussi pour les marchés financiers de s'associer à ces images de marque, au prestige de ces marques.
Oui, évidemment. Mais n'oublions pas derrière également qu'il y a tout l'envers du décor. Et donc cette exigence en matière de fabrication, le fait que vous avez des entreprises mondiales, donc les questions de logistique, de supply chain sont devenues déterminantes. Et tout ça aussi, c'est un élément de compétitivité que le consommateur ne voit pas, mais essentiel. Vous avez beaucoup d'ingénieurs maintenant dans le luxe. Vous avez même beaucoup de chefs d'entreprise du luxe qui sont eux-mêmes issus de ce monde des ingénieurs.
On a parlé de cette concentration du marché du luxe. Est-ce que l'histoire récente a vu des challengers ne pas réussir à concurrencer des mastodontes comme justement LVMH ou Kering, pour parler des champions français? Est-ce qu'on a des exemples de difficultés de certaines marques à trouver leur place?
Oui, c'est certain. Vous avez, au fond, à côté des insiders, vous avez deux catégories d'outsiders. Vous avez les challengers. Dans le vêtement, c'est assez compliqué. Vous parliez des problèmes financiers. Il y a cette question de préfinancement, parce que il faut un certain nombre de saisons. Ces nouvelles marques, elles s'adressent à des magasins externes. Elles ne peuvent pas avoir leur propre réseau. Donc, si ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement est évidemment extrêmement important, donc leur sensibilité financière est très forte.
Et les autres difficultés de ces outsiders, de ces challengers, c'est principalement une question financière?
Ça joue beaucoup. Tous les autres éléments, peut-être un domaine dans lequel vous avez eu des réussites de la part de challengers. Je pense par exemple à une marque comme Louboutin dans le domaine de la chaussure. C'est peut-être, si vous voulez, là, plus facile que dans le domaine du vêtement.
Et comment expliquer le succès de Louboutin, à part le fait qu'effectivement on est sur un secteur très précis de la chaussure, mais qu'est-ce qui a fait le succès de Louboutin par exemple?
Alors chacun aura évidemment son explication. Je crois que ce qui est intéressant, si vous voulez, dans le modèle, c'est qu'il a parfaitement compris cette combinaison entre justement le côté immatériel et projection, et aussi le sens du détail, parce que vous savez que c'est des produits tout à fait, je dirais, Où le détail compte énormément.
La fameuse semelle rouge qui permet de se distinguer, voilà, de montrer qu'on a des loups-boutins.
De pouvoir allier ça avec la modernité, avec la mode, mais tout en imposant un style. Donc, qui dit style, dit durée. Voilà, si vous savez, tout ça, c'est une alchimie qui est assez compliquée.
Et ce qui est particulièrement important pour le marché du luxe, et en l'occurrence de la haute couture, c'est l'expérience peut-être du client qui arrive dans une boutique où il va avoir un service particulier. Je passais devant le magasin Louis Vuitton il y a peu de temps et je voyais qu'il y avait une queue assez interminable devant la boutique sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'il y a cette volonté, encore une fois, de créer de la rareté, l'exceptionnalité de l'expérience en boutique ?
C'est tout le sujet, si vous voulez, parce que il faut fabriquer derrière. Et donc, à partir du moment où vous voulez avoir la qualité, le savoir-faire technique, etc., vous devez réduire, en quelque sorte, la demande, ou en tout cas l'échelonner. Et d'où, d'ailleurs, ça se retrouve, si vous voulez, dans les prix.
Mais alors la question qui se pose, c'est la question de la vente en ligne. Si cette expérience en boutique est si importante, est-ce que le marché du luxe devrait davantage investir ou non Internet ? En l'occurrence, on peut dire que c'est un marché qui accuse un certain retard sur le web.
Alors, il faut distinguer la digitalisation et online. Si vous voulez, online, c'est une partie de l'iceberg. On se focalise beaucoup sur le online. Alors, le online, c'est surtout aux États-Unis. Hein, 44% des dépenses online de luxe, c'est les États-Unis. Donc, on voit bien les caractéristiques là de ce marché. Et c'est 10%, c'est-à-dire c'est l'équivalent du Japon. Bon. Ça va sûrement augmenter. Mais le gros enjeu, c'est le digital. Parce que la narration, justement, passe maintenant par les réseaux sociaux. Et puis le digital joue un rôle aujourd'hui dans la création, il joue un rôle dans la gestion de la chaîne de valeur. Donc la digitalisation des entreprises du luxe s'accélère. D'ailleurs, elles se sont toutes dotées de ce qu'on appelle les fameux chief digital officers.
Donc si retard il y a, ce que vous nous dites, c'est que ce retard se situe au niveau de la vente en ligne et moins au niveau de la digitalisation.
Voilà, et je ne dirais pas que c'est un retard, c'est sans doute un choix stratégique. Alors on peut le contester. C'était un champ de discussion très, très ouvert. Mais on peut aussi considérer le digital plutôt comme un outil au service du luxe. Et les ventes online, c'est en effet une partie de la commercialisation, mais une partie seulement, avec, il faut bien le dire, des dangers, puisque vous avez un certain nombre de spécialistes du online qui mettent à la disposition des clients des contrefaçons, etc., etc. Donc le online, si
les
vous voulez,
les contrôles sont
luxe,
plus compliqués sur Internet,
oui,
bien sûr.
Problèmes juridiques, etc. Donc il faut bien distinguer les deux, me semble-t-il.
Alors il y a la question numérique et puis il y a d'autres enjeux auxquels l'industrie du luxe fait face aujourd'hui, et notamment les enjeux écologiques. Est-ce que les engagements des grandes marques commencent à produire des effets, Dominique Jacomet? On se souvient de Burberry qui avait annoncé en septembre qu'il allait cesser de détruire ses invendus, ce qui est l'un des grands tabous dans l'industrie du luxe.
Alors, il y a la question de la mode. La mode, c'est le renouvellement accéléré, etc. Donc, la mode et le développement durable, c'est un peu oxymore, si vous voulez, parce que c'est contradictoire dans les termes. Le luxe, c'est un peu différent, parce que le luxe, vous avez cette notion de permanence. On parlait tout à l'heure du tailleur bas, etc. Donc vous avez des produits qui sont permanents, qui sont donc durables.
Oui, mais comme toute industrie, on veut vendre, alors, donc on a intérêt à renouveler ses stocks et à refaire
Le luxe, c'est quand même beaucoup de permanents et de la mode, mais surtout beaucoup de permanents. Donc par essence, je dirais que le luxe est durable. D'ailleurs, Jean-Louis Dumas, qui avait cette formule, disait au fond, on lui disait un jour, mais c'est quoi le luxe pour vous ? Le luxe, c'est ce qui se répare. Et c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs, les gens qui rapportent, si vous voulez, des produits pour être réparés. Ça, c'est très spécifique au luxe.
Donc, et en même temps, on voit des Fashion Weeks très régulièrement. On voit tout de même que les modèles et saisons se renouvellent très vite.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, il y a un ancrage, il y a un substrat qui est propre au luxe et qui correspond, contrairement à la mode, si vous voulez, à cette notion de durabilité. Après, vous avez raison, les problèmes se posent également compte tenu des séries dont je parlais et de l'importance des chiffres d'affaires, de problèmes de matière, de cycle de vie du produit, d'économie circulaire. Tous ces problèmes, évidemment, doivent être traités. Et vous savez qu'il y a un certain nombre d'entreprises du luxe qui sont plutôt en avance, si vous voulez, par rapport au secteur plus général de la mode dans ce domaine.
En l'occurrence, l'interdiction de la destruction des invendus de la mode devrait figurer dans le projet de loi à venir sur l'économie circulaire. C'est une bonne chose selon vous? Vous avez le sentiment qu'on avance sur ce point, qu'il y a une plus grande sensibilité à ces questions écologiques dans le secteur du luxe?
Oui, parce que, on l'a dit, c'est une industrie mondialisée. Et donc, elle va continuer à croître. Et on a un problème de rareté des ressources. Et on a un problème d'empreinte carbone. Donc il va falloir forcément, si vous voulez, modifier le modèle d'affaires.
On arrive presque au terme de cette émission, Dominique Jacomet. Pour conclure, quel sera, quel devrait être, selon vous, l'avenir de ce marché du luxe? Quels seront les enjeux qui vous semblent absolument prioritaires?
Combiner héritage et modernité, c'est, si vous voulez, l'ADN du luxe, et c'est un combat de tous les jours. Le luxe ne peut pas être uniquement dans le passé, il ne peut pas être entièrement dans la modernité, dans la mode. Et donc cette combinaison
de l'innovation et en même temps on met en valeur son histoire.
Ça c'est tout à fait essentiel. La créativité reste importante et un des atouts des marques françaises, c'est le renouvellement de la création et des équipes créatives, beaucoup plus fortes en France qu'ailleurs. Et puis on l'a dit, la révolution numérique et le développement durable, ça n'est plus un choix, ça n'est plus une option, c'est une nécessité.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur les annonces de plans sociaux et de licenciements qui se sont multipliés ces derniers jours dans le secteur de l'industrie.
Mais oui, c'est semble-t-il un classique des lendemains d'élections. Après avoir respecté une période de réserve visant à ne pas influer les élections et surtout à ne pas desservir le pouvoir en place, les annonces de suppression d'emplois se sont multipliées dès les élections européennes passées. Ainsi, dès le 28 mai, sur le lendemain des résultats, le géant américain General Electric annonçait la suppression de 1044 postes en France. Au moment de la reprise d'Alstom, le géant américain s'était pourtant engagé à conserver les emplois de la branche énergie et à créer au moins 1000 postes pendant 3 ans sous peine d'indemnité. L'accord de reprise qui prenait fin au début de l'année a donc libéré General Electric de ses obligations qui s'est empressé d'annoncer les emplois supprimés. Le même jour, le repreneur de l'usine Whirlpool à Amiens annonçait le placement du site en redressement judiciaire mettant en péril le travail de 167 personnes. On peut ajouter à cette triste liste la situation incertaine des salariés de l'usine Ascoval à Saint-Saulve ou encore la fermeture annoncée de l'usine Ford de Blanquefort. On ne compte plus ces dernières années les annonces de plans de licenciement dans le secteur de l'industrie.
La France, Arjuna, est d'ailleurs l'un des pays européens où l'activité industrielle est la plus faible.
Absolument. Le secteur industriel de la France ne représente ainsi que 11% de son activité économique contre 15% en Italie ou 25% en Allemagne. En réalité, la France se place même en queue du peloton européen puisque seule Chypre, la Grèce ou Malte font pire en matière de production industrielle. Mais comme le rappelle un article de Mediapart, cette situation est loin d'être due au hasard. La journaliste Martine Orange explique ainsi comment l'impuissance de l'État en matière de stratégie industrielle a été préparée depuis plus de 30 ans. Elle rappelle ainsi que le pouvoir, qui avait déjà abandonné depuis longtemps les grands plans industriels pompidoliens, tira sans remords un trait sur les outils de son action publique comme le plan, le crédit national ou encore le soutien par la commande publique. Ainsi, entre 1980 et 2007, l'industrie française a perdu plus de 2 millions d'emplois, sans jamais que l'on ne remette en cause la stratégie adoptée au sommet de l'État.
Certains estiment ainsi que l'État devrait jouer un rôle de stratège afin de soutenir les secteurs stratégiques de l'économie.
Exactement. Si l'État n'a pas vocation à construire des usines, il peut néanmoins intervenir pour s'assurer que des pans entiers de l'économie ne soient pas détruits par le cynisme du marché. On se rappelle trop bien des reprises et des rachats d'entreprises passés sous pavillon étranger ou simplement découpés avant d'être revendus suivant les logiques d'une économie financiarisée. Que ce soit dans le domaine de l'industrie automobile ou dans celui de la transition écologique, l'implication de l'État peut être nécessaire afin, par exemple, de permettre la reconversion des travailleurs en leur offrant la possibilité de se former, de monter en compétences pour accompagner la transformation de l'économie plutôt que de la subir. Hélas, au nom de la lutte contre les déficits et du respect de la concurrence libre et non faussée, imposée notamment par les institutions européennes, la France s'est trouvée fort dépourvue dans un environnement de compétition mondialisée. Pourtant, comme le note l'article de Mediapart, la France ne semble pas en passe de faire marche arrière et s'en prend désormais à l'un des derniers atouts sur lesquels s'appuie encore l'industrie, à savoir les services publics que les gouvernements successifs n'ont cessé de remettre en cause au nom du respect de la rigueur budgétaire et de la passion pour la privatisation.
Avec les Black Keys, Money Maker. Merci beaucoup Dominique Jacomet de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans l'univers de l'industrie du luxe. Je citerai un autre de vos ouvrages, Mode textile et mondialisation, qui est paru aux éditions Economica il y a quelques années. Demain, nous nous pencherons sur le concept de rareté dans la théorie économique. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.